21. Captatio animae. Qui parle là, si près de nous, bien qu'invisible? Qui marche là, dans l'éblouissement, mais sans visage? Ainsi venaient les dieux, jadis, à des enfants qui jettent des cailloux sur l'eau, quand la nuit tombe. Yves Bonnefoy. Le chevalier de Vaumacelle et sa captive auraient pu disparaître à jamais dans les oubliettes de verre. Ils seraient devenus les fantômes du château, hantant le dédale de ses galeries, emprisonnés dans les fresques, les tapisseries et la mémoire des pierres, réduits à un sujet de légende mélancolique. En fait, tout cela est bel et bien advenu. Odéhardes de Maginois en particulier s'est imposé comme l'immortel de verre. Mais ce ne fut pas, hélas, parce que les faux amants s'égarèrent dans les cryptes où ils s'étaient enfuis. Le retentissement qu'eut l'attaque de verre dans le duché de Bromel et au-delà de ses frontières fut surtout le fruit de ses répercussions ultérieures. J'écris ces lignes d'une plume tremblée. Autour de mon appartement, la grande demeure s'anime, parcourue de rumeurs de plus en plus insistantes. Des trottinements tambourinent sur la majolique des couloirs, des planchers craquent. Des coups de vent font vibrer les fenêtres dans leur cadre. Des grilles grincent, des portes claquent. J'essaie de me persuader que c'est le tchoudalien qui se montre bruyant dans ses rondes, mais ce n'est pas dans les usages du chuchoteur. Et puis, il ne saurait rôder à plusieurs endroits à la fois. À l'instant, alors que je couchais par écrit la folie qui conduisit le chevalier de Vaumacelle à évoquer un vieux pouvoir, des esprits frappeurs s'en donnaient à cœur joie dans les conduits de cheminée. En fait, c'était à croire que l'escalier catabatique du castel d'Ingremance traversait mes murs. Je croyais entendre les fugitifs remonter ces marches qui, par inversion tellurique, allaient les mener dans les tréfonds des Luiselles. Je pouvais saisir distinctement le sautillement du jeune Kell, le pas traînant des blessés, le raclement des armures contre la pierre, jusqu'au froissement soyeux de la traîne de la duchesse. Chimère que tout ceci. Voici bien des années qu'eut lieu le rapt d'Odéhard de Maginois. En outre, l'enceinte dans laquelle je compose cet ouvrage se trouve fort éloignée de Vers. Je n'ai donc pas lieu de percevoir les échos de cette fuite, fût-ce par hantise ou clairvoyance. Chimère, vraiment? L'impression d'entendre la duchesse déchue, le chevalier de Vaumacelle et ses gens frôler ma cloison est un leurre, bien sûr. Mais la manifestation, quant à elle, est bien réelle. Elle émane du texte. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Elle émane de l'écriture du texte. Celui qui est détenu dans la cave est parvenu à infecter de sa malveillance l'osmose télesthésique que j'ai dû nouer avec la main de fer du tchoudalien. Il est capable d'harmoniser ses gestes aux nôtres. Je crains, hélas, qu'il ne parvienne à retranscrire ce que j'écris. Certes, il ne possède ni parchemin, ni plume, ni lutrin, et encore moins de lumière. Voilà qui ne l'embarrasse guère. Sa perversité l'a si complètement aveuglé que les ténèbres sont devenues son élément familier. Il érafle la pierre de ses griffes. Les murs de sa prison, qui est vaste, doivent être couverts d'inscriptions. Il en lit l'empreinte térébrante dans son âme dévastée. Et il puise dans le pouvoir évocatoire du récit les prestiges qui lui permettent de s'insinuer toujours plus près de moi. Il me renvoie à travers les murs l'écho de ma propre chronique. Il ne s'agit pas d'une vulgaire malice. je crois qu'il a compris ce que je suis en train de tramer. Il doit être écartelé entre le désir et la peur que je réussisse. Peut-être redoute-t-il qu'à la fin, quand le livre sera terminé, je puisse me rendre aux raisons du Tchoudalien et vouer cet endroit aux flammes. Pour me distraire d'un tel projet, le captif tente de me déconcentrer. Il essaie surtout de se glisser à travers ce récit que nous partageons désormais, afin de s'évader de sa prison. C'est hors de question. Pas maintenant, alors que je touche au but. Je dois fermer mon esprit, me concentrer, parachever le grand œuvre dans lequel j'ai brûlé ce qui me restait d'art. Peut-être remplirai-je ainsi mon dessein. Peut-être puis-je encore épuiser un second souffle et laisser derrière moi cet endroit. Après tout, n'est-ce pas ce qu'entreprirent de faire le chevalier de Vaumacelle et son écuyer, bien qu'ils fussent grièvement blessés? Ils auraient pourtant pu mourir, sitôt réfugiés dans le passage ensorcelé. L'évocation n'ayant pas été faite dans les règles, le charme était instable. À peine les fugitifs dans l'étroite cage d'escalier, l'accès se referma. Les ravisseurs et leurs prisonnières se retrouvèrent plongés dans un noir de poids, giflés par un vent glacé, parcourus de soupirs et de voix qui les transissaient jusqu'à la moelle. Edan se débattit contre la créature parfumée et hâve qui aspirait avidement son poignet. Nem, pris de faiblesse, secoué par l'étourdissement qui désoriente quiconque franchit ce genre de seuil, s'assit à tâtons sur les marches. Le salut vint de Kel. Non qu'il voulût se montrer secourable, mais qui battit le briquet pour y voir quelque chose. Lorsqu'il alluma sa bougie, il ne fit guère attention à Nem adossé au mur courbe, qui reprenait une respiration pénible en pressant ses pansements gorgés. Il fut surtout frappé par la vision de la duchesse en train de sucer la main sanglante du chevalier. « Ah, c'est dégoûtant !» grimaça-t-il. La lumière et le ton désobligeant attirèrent l'attention d'Odéhard, qui tourna une figure barbouillée vers le page. En reflétant la flamme de la bougie, les yeux de la dame miroitèrent comme les pupilles d'un loup. Y dansait une forme de férocité teintée de gourmandise. Ce fut plus que suffisant pour le freluquet. Il tourna les talons et détala, remontant quatre à quatre l'enroulement des marches au risque d'éteindre la chandelle qu'il protégeait de la main. Lâchant le sire de Vaumacelle, la dame se lança à la poursuite. L'aura tremblante de la bougie disparut très vite derrière l'axe de l'escalier, tandis que la cage obscure retentissait de deux courses qui résonnaient comme la cavalcade du goupil traqué par le lynx. En voulant les rattraper d'un pas incertain, le sire de Vaumacelle trébucha dans les jambes de son écuyer. Il l'aida péniblement à se relever. « Il faut les suivre, » dit-il. « Elle va lui faire un sort. »« À moins que ce soit le contraire, » marmonna Nem. Se soutenant l'un l'autre, les deux hommes gravirent l'escalier. Affaiblis par leurs blessures, plongés dans les ténèbres, ils montaient trop lentement pour regagner du terrain. Néanmoins, lorsqu'ils finirent par atteindre le sommet des marches, une lueur éloignée dessinait vaguement le palier. Par-delà le porche, fuyait l'étrange galerie dont les arcades donnaient sur une crypte en trompe-l'œil. La bougie de Kel brillait tout au bout du corridor. Le page, plus que jamais prêt à décamper, s'y était arrêté dans une attitude méfiante. La flamme de sa chandelle découpait à contre-jour la silhouette élancée et maigre de la duchesse, qui s'était immobilisée non loin de la cage d'escalier, la tête tournée vers les fenêtres aux croisillons de nuit. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose, par-delà les carreaux brisés. Il émanait de la dame une tension pleine de stupéfaction et de courroux. Entendant les pas des deux hommes approcher, elle s'adressa à eux sans leur accorder un regard. « Où m'avez-vous entraîné ?» gronda-t-elle sur un ton de colère rentrée. « Je ne saurais vous le dire avec certitude, » répondit le sire de Vaumacelle. « Je crois qu'un enchantement de ces nargins nous a transportés au fond des souterrains de verre.
Non.
Ceci n'appartient point au style de verre, » répliqua Odéarde sur un ton définitif. Et se retournant de façon menaçante vers son ravisseur, elle lui jeta avec acrimonie « Ne m'auriez-vous pas menti sur la créature qui vous a retourné contre moi ?»« Fille de cette prétendue dame des futaies bleues. En fait, c'est Oriabel qui vous a envoyé. »«
Je ne vous entends point, dame. En fait, je ne connais même pas cette personne. »«
Bien sûr. » Voilà beau temps qu'elle ne se fait plus appeler ainsi. Elle se sera présentée à vous sous son nom de religion. N'est-ce point la mystagogue Prudence de Mondoire qui vous a ému avec le récit de ses malheurs?
Je n'ai pas l'honneur d'avoir rencontré cette dame.
Baliverne! La duchesse pointa de l'index l'obscurité derrière les croisillons encrassés. Cette fresque-là, derrière ces arcades, représente les chambres onirocritales de Mondoire, le sanctuaire où mon époux déloyal m'a enfermé sous la garde de son ancienne putain. Le signe est limpide. J'ai été trop magnanime en épargnant la vie de cette souillon. Vous êtes l'instrument de sa vengeance et elle me le fait savoir.
Je crains que vous ne vouliez. J'ignore tout de votre différend avec cette dame. »
Profitant de cet échange, le chevalier acheva de déchirer sa cotte d'armes pour improviser un bandage sur sa main et son poignet.
« Je crois plutôt que ces nargins a jadis parsemé vers de figures et d'inscriptions oraculaires. »
avança-t-il.
« Vous avez vu la statue à mon effigie. J'ai trouvé ce passage grâce à une vieille tombe à mon nom. Ce trompe-l'œil qui vous trouble en fait sans doute partie. D'une façon ou d'une autre, le magicien a eu la prescience de ce qui allait advenir.
Voulez-vous dire que notre chute était écrite ? Railla la silhouette ténébreuse.
Mon avis n'est pas si tranché. Tant que l'honneur est sauf, rien n'est perdu.
La réplique tira un ricanement à la duchesse.
« Voilà bien un mot de cavalier, » persifla-t-elle. « Il est de toute beauté dans le discours du chevalier le plus honni de Bromel. Mais qu'importe la vérité que cette vilaine peinture ait été commandée par Oriabel ou par Sénargent. Qu'importe que vous soyez conscient ou non d'avoir été le jouet de cette femme. À Mondoire, juste avant que je prenne congé de la mystagogue, elle m'a jeté l'anathème. Je ne croyais pas qu'une courtisane déguisée en moniale eût vraiment le pouvoir de flétrir. Peut-être me suis-je trompé. Peut-être n'êtes-vous, à tout prendre, que l'agent de cette imprécation. »
Haussant les épaules, Odéarde décida. Quittons cet endroit, il m'est odieux. J'aurais bien laissé ce méchant valet me montrer la route, mais c'est un guide traître et je préfère que vous m'ouvriez le chemin. J'espère que pour une fois, vous tiendrez parole et me mènerez dans un endroit sûr.
Telle est mon intention. Si vous vous pliez à mes conditions, j'aurai rempli mes engagements envers la dame des futaies bleues. Je ne vous considérerai plus comme ma prisonnière.
Votre prisonnière ? Ironisa la duchesse. Vous ne doutez de rien.
J'ai tenu votre existence en mon pouvoir et j'ai payé de ma personne pour qu'elle ne vous fût point ôtée. Cela vous crée quelques obligations envers moi.
Dans un instant, vous vous peindrez sous les traits d'un protecteur. Et tout cela pour une contrepartie modeste. Je ne serai donc sorti d'une cellule de couvent que pour terminer dans une autre.
Finalement, vous êtes de la même étoffe que mon mari. Quand une dame vous embarrasse, vous n'avez de cesse de lui faire prendre le voile. »
D'un geste de la main plein de majesté, Odéarde signifia aux deux hommes de reprendre les devants. Elle ne s'effaça guère, cependant, ne leur laissant qu'un étroit passage entre le mur et sa personne. Le chevalier et l'écuyer durent donc la frôler. L'épuisement les tassait-ils? Était-ce une illusion provoquée par les ténèbres? Ils eurent l'impression que la dame les regardait de haut, non seulement en raison de son dédain, mais parce qu'elle les dominait désormais d'une bonne demi-tête. L'odeur métallique du sang effaçait en partie ses parfums capiteux. Elle jeta à Nem un regard empreint d'une telle dureté que le vieux servant d'armes esquissa le signe de la mandorle. Cette action inspira un sourire de mépris aux lèvres de la duchesse. La galerie aux fenêtres obscures les mena jusqu'aux marches qui descendaient dans l'onde ténébreuse. Odéarde refusa tout net de n'y tremper que le bout de son escarpin. Bien qu'elle se réclamât de sa condition et de la décence, il était assez perceptible qu'une peur plus profonde motivait ses réticences. Le chevalier de Vaumacelle se fit alors seconder par son page pour retourner la barque tirée au sec et la remettre à l'eau. L'embarcation, fort vermoulue, grinça de toutes ses membrures. Son bordage disjoint aurait nécessité un sérieux calfatage. À peine la dame y fut-elle descendue, le canot enfonça dangereusement, et une flaque se forma sur la sole. Effrayée comme si elle allait couler en haute mer, alors que la coque raclait encore le fond, Odéarde faillit sauter sur le quai souterrain. Mais il se produisit alors quelque chose qui fit tressaillir tout le monde. Le dédale souterrain résonna soudain de chocs caverneux. C'étaient des bruits assez lointains, presque rythmés, dont les échos roulaient dans le complexe enfoui. Le sire de Vaumacelle et ses servants en furent saisis. Un silence si lourd les avait accompagnés lors de leur incursion initiale que cette rumeur exerçait sur eux un effet démultiplié. La duchesse, quant à elle, dressa le menton d'un air triomphant. « Mon fils n'aime pas faire buisson creux !» se réjouit-elle. « Il va lâcher son équipage de vénerie sous terre !» Les trois ravisseurs tendirent l'oreille avec inquiétude. Ils n'entendirent pas d'aboiement, ce dont ils ne pouvaient rien augurer car des chiens de chasse bien créancés sont silencieux. Seules des percussions, qui ressemblaient à des coups de pioche ou de rivelaine, se répercutaient le long des voûtes et des parois. « Cela a l'air de venir de devant, ou du dessus, » s'alarma Nem. « Alors ne tardons pas, » répondit le chevalier. « Tant qu'il creuse, la voie ne nous est pas barrée. Il faut gagner la sortie avant de nous trouver empêchés. » Comme la barque prenait l'eau, les hommes se contentèrent de la haler en pataugeant. Le chevalier la tirait de son bras valide. Nem essaya de le seconder, mais pris de frissons quand le flot lui atteignit le ventre, il se raccrocha au plat-bord plus qu'il ne le poussa. Qu'elle, qui restait à distance respectueuse de la duchesse, confia sa bougie au sire de Vaumacelle pour pouvoir nager à quelques brasses de l'embarcation. Bien qu'il n'accueillît qu'une passagère, le vieil esquif enfonça tout de suite de façon inquiétante, alors que ses voies d'eau restaient plutôt modestes. En dépit de sa maigreur, Odéarde paraissait peser à elle seule aussi lourd que plusieurs personnes. Un courant d'air froid tourbillonnait autour de l'embarcation. Il provoquait une légère risée à la surface qui venait troubler les ondulations provoquées par le mouvement des marcheurs et de la coque. Alors que ce curieux équipage remontait le chenal troglodytique, l'obscurité résonnait toujours d'impact caverneux, à un rythme lent mais assez régulier. Les chocs vibraient, sourds et sinistres, comme le tempo d'une marche funèbre. Qu'elle, qui trouvait que ses maîtres traînaient,
barbotait en avant-garde, juste au-delà du halo de lumière, et fut le premier à remonter à pied sec. Peu après, la quille de la barque a chopé contre un fond argileux. La duchesse bondit aussitôt à terre avec un élan déjeté, ne retrouvant son allure altière que lorsqu'elle se fut éloignée de quelques pas de la rive. Elle promena alors un regard réprobateur sur le cercle de pierre levée et les parois couvertes de gribouillage. Ayant rendu sa bougie à quelle, Eddan aida son écuyer à sortir de l'eau. Glacé par la morsure de l'onde souterraine et par le sang perdu, Nem essaya bravement d'avancer, mais il grelottait de façon incoercible. Le chevalier le soutint pour marcher. De son côté, le page filait à nouveau devant, laissant les ténèbres envelopper les adultes. Il eut au fait de retrouver la corniche oblique par laquelle ils avaient accédé à la rivière et la remonta entre-temps. La duchesse haussa un sourcil quand le chevalier l'eut invité à mettre ses pas dans ceux du freluquet. Mais la rumeur de piochage provenant des hauteurs, elle ne se fit pas prier et escalada le raidillon avec une vivacité de belette. Prenant appui sur la roche, Nem parut retrouver un second souffle et se mit à monter par ses propres moyens. Le sire de Vaumacel le suivit de près pour le rattraper au cas où ses forces lui eussent fait défaut. Malgré la pénombre où les abandonnait Kell, il posait un œil soucieux sur les traces de mains sanglantes qu'imprimait l'écuyer sur les figures de cerf. Au sommet de la vire, la duchesse se fendit d'un soupir outré quand elle découvrit la crevasse où le page venait de se faufiler. Mais il en jaillit soudain un fracas d'éboulis, comme si quelque part en avant, un pan de mur venait de céder. Et la dame s'enfila résolument dans la faille, déchirant en partie ses atours contre les aspérités. Son corps occulta presque complètement la lueur fuyante de la bougie. Le chevalier de Vaumacel et son écuyer durent trouver l'entrée du passage à tâtons. Les deux hommes s'engagèrent dans le passage l'un après l'autre. De crainte d'un mauvais tour de la duchesse, Eddan reprit les devants, mais il était ralenti par Nem qui peinait à le suivre. Elle, peu désireux d'être rejoint par la dame dans ce boyau, avait filé très loin, abandonnant ses aînés aux ténèbres. Alors que le chevalier, après s'être cogné le front, rentrait la tête dans les épaules en abordant la partie la plus basse du corridor, la voix du vaurien leur revint, étouffée par l'étroitesse du conduit.
« Flûte ! Il y a de la lumière devant !»
Son intonation trahissait une perplexité inquiète. Peut-être hésita-t-il sur la conduite à tenir, mais cela ne dura qu'un instant. L'accélération du froissement des robes de la duchesse contre la roche, en produisant un son de reptation sinistre, emporta sa décision. Il opta pour la fuite en avant, préférant un péril inconnu à la perspective d'être rattrapé par sa poursuivante au fond d'une chatière. Peu après, le chevalier l'entendit pousser une exclamation effrayée.
« Ah, ça ! Déjà ! Vous devenez pressant à force de zèle !»
protesta ensuite Odéhard sur un ton pincé. Un borborygme de voix traînante lui répondit. Alarmé, le sire de Vaumacel ne ménagea plus ses blessures et se hâta dans le boyau. Le buste et la nuque inclinés, gêné par le fourreau de son épée comme par l'écu qui, accroché dans son dos, raclait la voûte surbaissée, il se démena le plus vite possible. Devant lui, l'encadrement étranglé du conduit brillait d'une lueur tremblante.
Le très bas vous accorde la paix,
marmottait un timbre lent.
La paix, vraiment !
Répliqua la duchesse.
En ces circonstances, voici un homme d'esprit.
Bien que la lumière fût faible, elle éblouit fugitivement Eddan lorsqu'il s'extirpa de son soupirail. Elle provenait de deux sources. La bougie de Kell, qui se tenait dos au mur, non loin du passage, et une lanterne sourde pendue au bras d'une silhouette obscure. Le chevalier fut surtout incommodé par un relent fétide. Dans ce caveau qui, à l'aller, ne sentait que la vieille pierre et la poussière, flottait un remugle douceâtre qui lui souleva le cœur. Une fois qu'il eut scié, il put mieux jauger la situation. La duchesse tenait tête à un groupe d'ombres encapuchonnées, drapées de robes sombres qui tombaient telles des rideaux de catafalques. Au bout de poings osseux, certains de ses croque-mitaines tenaient des pics et des masses de carrier. Spontanément, le sire de Vaumacelle se rangea aux côtés de la dame et pointa l'épée pour tenir les inconnus à distance.
« Qui va là ? » lança-t-il d'une voix ferme. « Donnez vos noms et qualités. »
« Nos qualités ?»
répondit une ombre à l'élocution glaireuse.
« Voici longtemps que nous les avons dépouillées. Nous remplissons encore un sacerdoce de prêtre obituaire pour le temps qu'il plaira aux dieux. Si vous voulez un nom, sachez que j'étais naguère le nécrophore Tariq Tess. Nous sommes venus pour remplir notre office. »
Eddan baissa en partie sa lame tout en restant sur ses gardes. Du coin de l'œil, il pouvait voir Kel qui s'était couvert le nez de sa manche. Le chevalier souffrait lui-même difficilement les relents qu'exhalaient les robes noires.
« Je suis le chevalier Eddan de Vaumacelle, » dit-il, « et je conduisais Madame Odéarde, duchesse de Bromel, vers votre sanctuaire. J'ignorais que cette partie des souterrains de verre faisait partie de la nécropole.
Initiative pour le moins déplacée,
marmonna le dessicatorien.
Le rite dicte aux officiants d'aller aux défunts, non aux défunts, d'aller aux officiants. Or, nous avions déjà des frères œuvrant au château.
Alors que Nem s'extirpait péniblement du corridor, la duchesse jeta un regard plein de morgue à ses ravisseurs.
« Ces scélérats sont complices du meurtre du frère Solacien, »
lâcha-t-elle.
« Vous devriez vous saisir de leur personne. »
L'accusation n'eut toutefois guère d'effet. Les ombres encapuchonnées demeurèrent apathiques. Même les fossoyeurs munis d'outils n'esquissèrent pas un geste de menace.
« À moins que ces intrus ne profanent des sépultures, je n'ai plus autorité pour les priver de leur liberté. »
grasseya Tariq Tess.
« J'ai été récemment démis de mes attributions judiciaires sur le bosquet de verre. Vous devrez en référer... « L'apocrisière Califor, lui seul a désormais pouvoir de décider des suites. La volonté du Dieu ne nous a conduits dans ces cryptes que parce que nous y avons entendu une intrusion et surtout parce que des intersignes nous ont instruits de la présence d'âmes en peine. C'est à cette fin. Nous avons percé les murs. Louons la miséricorde du Dieu. Nous allons pouvoir vous rendre les honneurs qui vous sont dus, Votre Altesse.
Je trouve votre hommage un peu précipité, maîtresse saint frère,
argua la duchesse.
Comme vous pouvez l'entendre, je suis loin d'avoir dit mon dernier mot.
Votre Altesse, il ne vous aura pas échappé que, dans la condition qui est la mienne, je m'adresse à vous, moi aussi. De façon générale, ce que l'on dit ou fait ne suffit pas à déterminer sur quelle rive l'on se tient. Il est des vivants qui ont perdu la parole. Quantité de morts parlent, et certains sont plus audibles que lorsqu'ils étaient en vie. Le profane s'égare quand il conçoit la mort comme une fin ou comme un commencement. La mort est un accomplissement. De la même façon que la foi peut donner bien des fruits comme la béatitude, le martyre et la thaumaturgie. La mort ne possède rien d'univoque. Il est des défunts qui sommeillent, d'autres qui rêvent, d'autres qui marchent. Pourtant, nous leur rendons à tous les mêmes devoirs. Car la seule chose qui consacre le mort, c'est son élection par le desséché. En ce jour fatal où le frère solacien vous a accordé les secours de la religion, vous êtes entré dans le sein du Dieu.
Élevant un bras à grand-peine, le nécrophore ébaucha un geste de bénédiction vers la duchesse. Sa main entr'ouverte apparut brièvement dans la lumière de la bougie. La paume un peu flasque avait une pâleur de cire, mais l'extrémité des doigts était noirâtre, comme s'ils avaient été souillés de terre ou d'encre. Sans un mot, les acolytes du prélat s'écartèrent d'un pas traînant. Ils ébauchèrent ainsi une haie cérémonielle, pas tout à fait droite, vers la portion obscure du caveau où ils avaient abattu une cloison. Odéarde de Maginois, toutefois, ne donnait pas l'impression d'être flatté par ses égards.
Puisque vous parlez de ce malheureux solacien, releva-t-elle, il m'avait accordé toute licence pour séjourner dans mes appartements au château. Le frère Califor y avait d'ailleurs donné son agrément.
Sans doute ont-ils jugé qu'il était plus charitable pour vous et pour vos proches de prolonger votre chapelle ardente. Mais soyez assurés qu'ils auraient fini par vous faire conduire en votre dernier séjour. Vos quartiers sont prêts, Votre Altesse. Vous y bénéficierez de la plus illustre compagnie et du service de notre chapitre. Vous ne risquez plus d'y être tourmenté par la lumière du soleil, la peur des ignorants ou la vindicte des impies. Le Dieu y abrogera vos tourments et vous accordera la plus parfaite des sérénités.
Je ne saurais être sereine tant que je n'aurai pas redressé les torts dont j'ai été la victime, ni restauré mes fils dans leurs droits.
Le nécrophore essaya de s'incliner dans une posture un peu chancelante.
Cela va de soi, Votre Altesse,
énonça-t-il avec une élocution qui devenait pénible.
Telle est la vocation de notre clergé. Aussi, afin de vous aider à trouver la paix, nous veillerons au respect de vos volontés posthumes. Notre confident restera à votre écoute, et nous entreprendrons toutes les démarches pour veiller à la bonne exécution de vos commandements.
Acceptez d'élire ces hypogées pour demeure, dame,
renchérit le sire de Vaumacelle en baissant complètement l'épée.
Ce faisant, vous me délivrerez de mes obligations envers la dame des futaies bleues, et je pourrai tenir mes engagements envers vous. Je gagnerai la cour ducale, je plaiderai votre innocence, je défendrai la bonne foi de vos fils afin de favoriser leur retour en grâce.
La duchesse lui jeta une œillade pleine de dédain.
« Dans votre état, »
releva-t-elle,
« vous voici bien présomptueux. Mon cher fils, le seigneur de Vert, va vous donner la chasse. Il ne vous laissera aucun répit tant qu'il n'aura pas prélevé vos menus droits. Lui échapperez-vous par je ne sais quelle merveille. Vous êtes saigné, vous périrez de faiblesse sur la route avant d'être arrivé à destination.
C'est possible, dame. Vous pourriez ajouter que le duc me fera probablement un sort. Dans tous les cas, vous serez satisfaite. Alors à quoi bon balancer davantage? Accordez-nous, à vous et moi, de courir cette chance.
Qu'espérez-vous? « Quoi que vous fassiez, vous êtes condamné. »
« N'est-ce point le lot de tout un chacun ?»
Odéarde lui adressa une moue ennuyée.
« Je vous en prie, épargnez-moi les prêches religieux, »
protesta-t-elle en levant les yeux au ciel.
Il y a ici suffisamment de prêtres pour l'édification de mon âme. Vous souhaitez m'abandonner une fois de plus à votre guise. De toute manière, nous serons amenés à nous revoir sous peu au fond de ces galeries. Du moins au terme des 9 jours d'exposition coutumière sur les gibets de verre. La duchesse fit mine de se désintéresser d'Edan, mais se ravisa aussitôt. Un mot encore, chevalier, puisque vous êtes d'humeur philosophe. J'ai peur que vos beaux principes et votre admirable sens de l'honneur ne vous servent surtout à détourner le regard de la vérité. Alors permettez-moi de vous faire ce cadeau d'adieu, la morale de cette affaire. Il va sans dire que tout est votre faute. C'est votre arrogance. C'est la haute opinion que vous avez de vous-même qui, vous ayant fait sortir de votre condition à gaude masse, fut la source de tous nos maux. Seriez-vous jadis resté à votre place au cours de ce funeste tournoi? Rien ne se serait noué entre nous. Les calomnies dont j'ai été couverte n'auraient eu aucun fondement. Le duc ne m'aurait point répudié, la noblesse n'aurait point été déchirée, les armes bromaloises auraient repoussé l'invasion romande. Des milliers de vies auraient été épargnées, à commencer par la mienne et par la vôtre. Vous voulez plaider à la cour de justice du duc? Eh bien, plaider coupable. En fin de compte, peut-être aurez-vous la conscience plus tranquille lorsque vous poserez la tête sur le billot, ou quand on vous tirera à 4 chevaux. Tournant enfin le dos à Edan, Audéarde de Maginois fit signe au nécrophore Tariquetès qu'elle était disposée à le suivre. Précédant en fait le prélat, elle s'engagea d'un pas altier, encore un peu dansant, au milieu de la haie austère formée par les religieux. Les capus et les coules ténébreuses se mirent lentement en mouvement derrière elle. Et cette procession traînante s'effaça dans les ténèbres. En dépit du soulagement et de la douleur, le sire de Vaumacelle ne s'accorda aucun relâche. « Sortons au plus vite !» commanda-t-il à ses gens. « Madame la duchesse dit vrai. Le seigneur Méléagant va nous traquer. » Espérons que Sire Tigerned fera diversion assez longtemps pour nous permettre de quitter la nécropole et rejoindre nos chevaux. » Qu'elle ne se le fit pas dire 2 fois. Menem, très affaibli, peinait à se remettre en marche. Il accepta avec reconnaissance le secours que revint lui prodiguer son seigneur. Quittant ce caveau méphitique, le page les entraîna par le couloir archaïque jusqu'à l'éboulement qui ouvrait sur les vieilles carrières. Les 3 compagnons respirèrent un air moins fétide une fois qu'ils se faufilèrent hors du passage effondré, au bas de l'énorme puits de taille. Toutefois, quand il fallut attaquer l'escalade des volets d'escalier, les genoux de Nem fléchirent. Le sire de Vaumacelle, qui ne parvenait plus à distinguer le sang qui le couvrait de celui de son écuyer, demanda à Kell de s'arrêter et de les éclairer. « Tant pis !» se résolut-il. Il faut faire une halte pour poser des pansements plus serrés. Sans quoi, nous ne quitterons jamais cet endroit. Menem, trouvant un regain de vigueur, protesta aussitôt. Non, non, nous n'avons pas le temps. Et puis, si je m'arrête encore une fois, je ne serai plus capable de repartir. Sortons d'ici. Quel, en toisant les 2 blessés, trépignait sur place, prêt à décamper. Alors, avec un soupir, le chevalier se rendit aux raisons de son valet d'armes. Et lui ayant passé le bras sur les épaules, le hissa marche après marche, déchirant un peu plus la plaie qui lui perçait le flanc à chaque pas. « Si je meurs, » lui glissa Nem à l'oreille, « ne m'abandonnez pas dans ces catacombes. Je veux pouvoir reposer en paix. » « Tu ne vas pas mourir, mon vieil ami. Tu es robuste. Nous trouverons un refuge et tu recouvreras tes forces. Sortez-moi d'ici, mort ou vif.
C'est tout ce que je demande. »
Il fallut au sire de Vaumacel déployer de terribles efforts pour aider l'écuyer à atteindre le sommet du gouffre. Quelle que cette lente ascension exaspérait, s'éloignait entre-temps, revenait sur ses pas lorsque les deux hommes disparaissaient dans les ombres et lançait des encouragements sur un ton impatient. Lorsqu'ils eurent atteint les salles excavées, le chevalier finit par réquisitionner le freluquet pour l'aider à soutenir Naïm, ce à quoi le page se prêta de mauvaise grâce. « Qu'est-ce qu'on en fera s'il expire ?» demanda-t-il sans une once de tact. Naïm, qui se laissait désormais traîner plus qu'il ne marchait, ne réagit point à la question.
« Tais-toi, méchant drôle !»
gronda Edan.
« Que je parle ou que je me taise ne change rien au problème. Il est lourd, en plus, le vieux, avec son armure.
Dans quelques jours, c'est lui qui te frottera les oreilles.
Si vous croyez que ça me motive à le porter, non mais sérieusement, même mort, on l'embarque.
Nous respecterons sa volonté.
Et on l'emmène jusqu'où, comme ça?
Jusqu'à Carwell, s'il le faut. »
Le page ouvrit de grands yeux.
« À Carwell ? »
s'étrangla-t-il.
« Vous comptez toujours vous livrer ? » ?»«
Je m'y suis engagé. »
« Ce n'était pas une ruse pour vous débarrasser de la duchesse ?»«
Je ne transige pas avec mes devoirs. » »«
Et pourtant, là, vous venez de jouer au plus fin avec les ordres de l'enchanteresse. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?»«
Parce que si j'honore la parole donnée à Dame Odéhard, si j'obtiens l'annulation de son procès et le pardon de ses fils, elle pourra reposer en paix. Dans ce cas, j'aurai également rempli les exigences de la Dame des Futaies Bleues. »
Kell n'eut pas l'air convaincu, mais se contenta un moment de soutenir Naïm, qui se laissait désormais porter, plus qu'il n'avançait. Le trio dut néanmoins s'arrêter un instant pour ouvrir la grille qui ouvrait sur les dernières volées de marche avant la surface. Le page revint alors à la charge.
« Vous savez, elle avait raison, la duchesse, » observa-t-il. « Supposons qu'on lui fasse la nique au seigneur de Verre. Si on se présente devant le duc, il nous fera mettre en pièces. »
« C'est un risque que je prends.
Vous y sautez plutôt à pieds joints. »
Et soudain, comme pris d'une inspiration, le freluquet s'ébroua d'un air scandalisé.
« Non mais attendez !» s'offusqua-t-il. « Ne me dites pas que vous faites encore cela pour ses beaux yeux. Vous croyez vraiment que la Dame des Futaies Bleues, le cœur gros, viendra verser une larme au pied de l'échafaud ?»
« Ce que je dois importe davantage que ce que je crois. »
Les escaliers n'étant guère larges, le sire de Vaumacel dut à nouveau se charger seul de son écuyer. Pour se faciliter la tâche, il confia la hache de Naïm et ses propres armes au page. Au terme d'une ascension pénible, ils finirent par émerger dans la dernière crypte avant la surface. Un ray de jour blanchâtre tombait par l'ultime volée de marche qui les mènerait à l'air libre. Avant de s'y engager, Edan demanda à son petit valet de monter en tapinois pour éventer une possible embûche. Afin de gagner en discrétion, le freluquet se délesta des armes à côté de son seigneur. Il avait déjà gravi quelques degrés quand le chevalier le rappela doucement.
« Pas d'imprudence, Kell. Tends bien l'oreille avant de te risquer dehors. » Un peu piqué, le petit drôle jeta un coup d'œil dédaigneux à son maître, comme s'il avait besoin qu'on lui fît la leçon.
Mais son expression se transforma rapidement, tandis que ses yeux s'agrandissaient de surprise.
« Eh bien, qu'y a-t-il donc ?»
Le page, cependant, s'était très vite recomposé une mine concentrée. Il haussa légèrement les épaules, comme s'il venait de se tromper. Après tout, ce qu'il venait de découvrir n'était pas vraiment son problème. Et puis le chevalier finirait par s'en apercevoir tout seul. Alors qu'il montait les dernières marches à pas de loup, clignant des yeux dans le soleil, Kell se prit même à sourire. Il flairait soudain comme un parfum de liberté. Derrière lui, au bas de l'escalier, le rayon de jour versé par l'ouverture du caveau faisait miroiter les armes. Sur l'écu déposé au pied du chevalier,
le blason était abondamment bosselé, éraflé et même maculé de sang. Toutefois, sous les traces laissées par le combat, les armoiries paraissaient unies. Ne restait plus que l'argent. Les meubles avaient disparu. Dan de Vaumacel avait consumé toutes ses épines. Ses couleurs avaient fini par s'abolir. Il n'en demeurait qu'une, éblouissante et nue, aussi vive que la lumière au bout d'un tunnel, vierge comme la première page d'un livre à écrire. Portera-t-elle loin cette lumière? Cette lumière vers laquelle se hâte le chevalier de Vaumacel, son écuyer mourant et son page retors? Moi, je la vois. Je la vois enfin. Elle m'aveugle presque. Elle illumine la blancheur du vélin. Elle déborde de la fenêtre qu'offre le livre ouvert. Elle baigne tout l'horizon offert au lecteur. Plus que quelques mots, et l'évocation sera achevée. Elle fut longue à tisser. Elle m'a beaucoup coûté. La magie, après tout, procède toujours d'une prise de risque et de l'exploration de territoires interdits. Il faut, pour quiconque entend exercer cet art, suivre de longues initiations méandreuses comme les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Il faut construire des palais de mémoire aussi labyrinthiques que le château de verre. Il faut énoncer les formules cachées qui régissent les univers visibles et invisibles, afin de confondre le verbe, les énergies et les esprits. Ce que j'écris paraît soudain n'avoir ni queue ni tête. Allons. Il est temps d'ouvrir les yeux et de porter enfin le regard par-delà le mirage romanesque. Ce cher Ameline, ce malheureux Ameline l'avait bien dit. Même s'ils ont l'aspect d'innocents ouvrages, il se révèle mauvais d'oser feuilleter les grimoires d'un mage. Dans leurs pages sont inscrits des charmes qui guette l'imprudent lecteur pour envoûter son esprit. Je vous ai caché bien des choses, j'en conviens, mais je n'ai jamais dissimulé que je pratiquais les arts subtils. Oh, rassurez-vous, mon propos ne fut pas pure diversion. J'ose espérer qu'il fut aussi divertissement. Et soyez assurés que ce récit est vrai. Aussi vrai et essentiel que tout récit. Mais il comporte également une part d'invention. Et dans la feintise, c'était niché la feinte. Pour réussir mon tour, pour fuir cette demeure où pèse la menace d'un être abominable, il me fallait entrebâiller la porte, attirer l'attention des passants, les inviter à entrer, et grâce à un échange de bons procédés, me faire convier chez eux en retour. Il va sans dire que je parle métaphoriquement. La vérité, c'est que j'ai entrouvert mon âme et que je l'ai liée aux mots. Puis, tel un naufragé qui lance une bouteille à la mer, j'ai abandonné ce manuscrit au hasard des ateliers de copie, des librairies, des cabinets de lecture. Des commentaires magistraux. La déesse sait combien d'années il aura mis à vous parvenir. Qu'importe si ce fut long. Puisque vous lisez ces lignes, c'est qu'il est encore temps pour moi et trop tard pour vous. Pendant que vous plongiez dans le livre s'écoulait en vous. Tant que la folle du logis courait dans les vallées, les bois, les camps et les châteaux de Bromel, j'avais le champ libre pour entrer chez elle. C'est un vieux principe de magie mimétique. Quand le spectateur s'attache d'un peu trop près aux personnages, les personnages deviennent les spectateurs. Plus vous parcouriez les chemins du duché, plus vous vous perdiez dans cette traverse, plus vous cherchiez le sens de cette histoire, plus je feuilletais le volume de vos désirs, de vos joies, de vos peines, de vos soucis, et j'explorais votre demeure. Arrivés au point où nous en sommes, j'ai eu tout le loisir pour l'étudier. J'en connais beaucoup sur vos habitudes, vos affinités et vos aversions, vos espérances et vos désillusions. Suffisamment en tout cas pour disposer du double de vos clés. Je peux m'inviter chez vous, sitôt que j'en aurai la fantaisie ou la triste nécessité. Après tout, n'est-ce point le commerce que l'on entretient en bonne amitié? N'ayez crainte, je n'entends nullement m'éterniser. En règle générale, je ne ferai que passer. De toute façon, il est dans mon intérêt, et dans le vôtre, de ne point trop m'attarder où que ce soit. Tout au plus me glisserai-je de temps en temps, à l'occasion d'une relecture, d'une conversation ou d'un souvenir. En somme, je me comporterai à peu près comme les autres fantômes qui hantent déjà vos pénates. Ne m'en veuillez pas trop. Moi, j'ai de la gratitude pour vous. Et si vraiment vous vous rebellez contre le tour qu'on vous a joué, ne vous en prenez qu'à vous-même. Ne vous avais-je pas mis en garde? Tôt ou tard, tout lecteur devient nécromancien. Le conteur s'est caché dans ce galimatias, une conduite oblique qu'il adopta, sous peine de connaître les rigueurs irrévocables des chuchoteurs. Nul mauvais esprit ne pourra geler son évocation à travers ce halo, et paix à ses eaux. Vous venez d'écouter Récit du vieux royaume, Le chevalier aux épines, livre 3, Le débat des dames, de Jean-Philippe Jaworski, lu par Jean-Christophe Lebert. Une production Audible Studio.